Bonjour à toutes et à tous, hein. Bienvenue à la médiathèque, hein. Jean-Jacques Rousseau qui nous accueille exceptionnellement pour ce premier café débat de la saison. Donc vous avez le petit programme si vous ne l'avez pas encore eu avec notre première rencontre aujourd'hui et toutes celles qui vont suivre jusqu'au mois de mai. Donc vous pouvez les prendre, hein, les afficher sur vos frigos ou ailleurs, hein, vous pouvez en prendre autant que vous voulez. En tout cas, merci d'être là. Cette première rencontre s'inscrit dans le cadre de la thématique de la Fête de la Science. Donc, Fête de la Science qui a démarré depuis le 4 octobre partout en France et en Savoie, avec des événements un petit peu partout sur le département. Et un point d'orgue ce week-end, les 12 et 13 octobre, avec le Village des Sciences de Chambéry, qui cette année exceptionnellement ne sera pas au Centre des Congrès, qui est en travaux pour rénovation, mais qui se déroulera ici même à la Galerie Eureka et à la médiathèque, avec des stands qui vont se répartir à tous les étages. Donc vous êtes les bienvenus tout le week-end, avec autour comme thématique principale l'océan. Alors vous allez dire, à Chambéry, on est quand même bien loin de l'océan, mais bon, on a rajouté, nous, au niveau de la coordination régionale, un petit slogan, l'océan commence ici. Et oui, avec nos lacs et nos rivières, eh bien, tout finit un jour ou l'autre dans l'océan. On sait que la problématique des plastiques est prégnante de plus en plus. Et on a voulu remonter un petit peu le fil et s'intéresser à notre hydrographie et à notre hydrosphère. Et de savoir si nos lacs et nos rivières contiennent ces fameux plastiques. Et comment on va les chercher, comment on les détecte et puis quelle est la situation. Donc pour en parler, nous avons invité un ancien chercheur du laboratoire Editem, David Gateuil. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les entremis des sciences, je rappelle très rapidement le principe. Hein. On se donne environ la moitié du temps pour vraiment une présentation et puis nous réexpliquer un petit peu la problématique, les tenants et les aboutissants de ce sujet. Et puis on garde un temps entre nous pour échanger, pour discuter sur ce sujet qui devient un véritable sujet de société. David, merci d'avoir accepté notre invitation. Et sans plus attendre, je te laisse la parole et le micro.
Bonjour à tous. Avant de commencer, merci pour cette introduction. Avant de commencer, je voudrais juste remercier la Galerie Eureka et puis la médiathèque de me donner l'opportunité de présenter mes travaux. Je voudrais vous remercier, vous, d'être ici aujourd'hui, puisque c'est toujours un plaisir de pouvoir faire sortir la science des labos et puis de pouvoir la partager avec vous. Donc aujourd'hui, on va parler de plastique et de montagne, et on va s'intéresser plus particulièrement aux lacs de montagne. Ce que je vais vous présenter, hein, c'est pas des résultats issus d'un seul gros projet. Vous allez voir, hein, je vais vous présenter trois petits projets qui sont principalement issus de financements privés. Il faut savoir que le financement de la recherche évolue pas mal en ce moment et que la problématique des plastiques intéresse beaucoup de monde et que ça permet assez facilement de trouver, des financements privés. Et du coup, ça explique le format que j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter des petits projets puisque les financements privés font plutôt des petits projets. Vous avez ici aussi deux ONG, Aqualty et la Summit Foundation, qui sont des ONG, la première chambérienne et la deuxième suisse, qui nous accompagnent dans ces démarches sur les plastiques depuis le début, c'est-à-dire depuis 2019. Donc aujourd'hui, vous allez voir, ma présentation elle se découpe en cinq grands points. Les deux premiers points, je vais vous présenter la problématique des plastiques. Hein, qu'est-ce que c'est un plastique et pourquoi c'est dangereux pour l'environnement? Je ferai un point sur les plastiques dans l'environnement au moment où on a commencé nos études, c'est-à-dire en 2019. Et puis après, je vous présenterai les résultats de trois projets. Le projet Plastilac, qui s'intéresse aux lacs d'altitude. Le projet Clean Mont Blanc, qui est plutôt sur les torrents, lui. Et enfin, je vous présenterai une partie des résultats de la thèse de Julia Dussaucy, qui a soutenu l'année dernière sur les grands lacs alpins, et donc notamment sur le lac du Bourget et le lac d'Annecy. Alors, pourquoi on s'intéresse au plastique? La prise de conscience liée à l'impact des plastiques, elle a commencé d'abord par des photos assez marquantes qui ont eu un impact fort dans le grand public et dans la population en général. C'est des photos de grands organismes marins qui sont soit morts, soit en difficulté liées à la présence de grands plastiques. Hein. Je vous ai mis ici une photo d'une tortue avec un sac poubelle autour de la tête, On a tous aussi en tête les images d'oiseaux qui sont morts parce que ils ont ingéré trop de plastique et qu'ils ont l'estomac rempli de plastique et qu'ils n'arrivent plus à se nourrir. Ou alors des images comme sur la photo de droite, hein, vous savez que dans les circulations océaniques, on a ces tourbillons-là qui accumulent les objets flottants et qui accumulent notamment les plastiques, où du coup ça forme des espèces de grandes îles où on parle aussi de continents de plastique. Hein. Ces images, elles sont très marquantes, elles ont marqué l'opinion publique et ça a permis de déclencher les premiers financements de la recherche sur les plastiques. Donc les premiers qui commencent à travailler sur les plastiques, hein, c'est nos collègues qui bossent sur le milieu marin. Et donc eux, en travaillant sur les plastiques, ils ramassent des déchets de toute taille, hein, des gros déchets, des petits déchets. C'est les premiers à mettre en évidence le phénomène de fragmentation, c'est-à-dire que notre déchet plastique, quand il va passer du temps dans l'environnement, il va se fragiliser, il va se casser en petits morceaux. Et donc ils vont aller chercher ces petits morceaux de plastique et ils vont travailler avec ce qu'ils ont sous la main, c'est les filets à phytoplancton qui ont une maille de 300 micromètres, donc qui arrivent à filtrer des objets jusqu'à une taille de 300 micromètres. Et c'est pour ça que toutes les premières études sur les plastiques et sur les microplastiques, c'est sur le milieu marin et avec une limite de taille qui est ces 300 micromètres. Donc ça, c'est les premières études, et puis petit à petit, on commence à s'intéresser à l'origine de ces plastiques. Donc forcément, on sait qu'il y a des sources marines de plastique, il y a les filets de pêche, il y a des rejets directement dans l'océan. Mais il y a des études qui mettent en évidence que la majorité de ces plastiques, 80% des plastiques qu'on trouve dans le milieu marin, proviennent des fleuves, et du coup, on va remonter progressivement sur le milieu terrestre. Et puis, on s'intéresse d'abord à l'aval des villes, où on voit de la contamination, et quand on va voir à l'amont des villes, on s'aperçoit que même si on est à l'amont des sources de pollution, on trouve déjà des microplastiques. Et donc, petit à petit, comme ça, on va remonter jusqu'à atteindre les milieux, les sources de nos fleuves, c'est-à-dire les milieux d'altitude, et c'est là où nous, on commence nos travaux. Alors, avant de vraiment vous présenter les travaux qu'on mène à Editem, je vais simplement vous faire un point rapide sur ce que c'est un plastique, et pourquoi les plastiques ils ont un impact délétère sur l'environnement. Donc un plastique, c'est ce qu'on appelle un polymère. Donc pour imaginer, hein, un plastique, c'est une grande chaîne, et elle est constituée, cette chaîne, de maillons qui peuvent différer d'un plastique à l'autre. Donc ce que je vous invite à faire, c'est si vous avez un objet en plastique sur vous, ou si vous rentrez chez vous cet après-midi, allez vous voir au dos des objets en plastique que vous avez. Vous verrez probablement un symbole comme ça, un triangle constitué de trois flèches avec un numéro à l'intérieur, et ce numéro il vous indique la formule chimique du maillon qui constitue votre chaîne. Il y en a plein de différents et ces différences de composition chimique vont entraîner des différences de propriétés physico-chimiques qui vont changer elles-mêmes le devenir de ces plastiques dans l'environnement. Je vous prends un exemple, le numéro 5, le polypropylène, on en parlera plusieurs fois. Lui on le trouve notamment si vous avez des Tupperware en plastique chez vous, vous verrez, c'est un numéro 5. Pourquoi ? Parce que le polypropylène, il a une particularité, c'est qu'il est extrêmement résistant aux micro-ondes. Et donc pour des barquettes qui sont censées passer aux micro-ondes, c'est un matériau qui est tout adapté. Et par contre, lui, il a une très grande susceptibilité aux ultraviolets. Donc dès qu'on va l'utiliser en extérieur, il va vieillir extrêmement rapidement. Et donc pour limiter ce vieillissement, on est obligé de rajouter dans le plastique d'autres composés. Il faut savoir que le polymère de base, hein, du plastique, c'est en général 50% de sa masse. Et 50% de la masse du plastique, ça va être autre chose que du plastique à proprement parler. Vous pouvez avoir ce qu'on va appeler la charge. Je vais le passer assez rapidement, c'est pour modifier un peu les propriétés du plastique. Mais on a deux familles de composés qui vont nous intéresser. Les plastifiants, donc qui sont des composés chimiques qui ont pour but de faciliter le processus industriel. Donc ils vont rendre le plastique plus malléable à basse température. Et puis vous avez les additifs, comme par exemple les anti-UV, pour rendre le plastique plus résistant dans l'environnement. Les plastifiants, un exemple c'est les phtalates, sont des perturbateurs endocriniens. Les anti-UV, enfin les additifs, vous pouvez avoir les anti-UV, vous avez aussi les biocides, vous avez aussi plein d'autres choses, et une partie d'entre eux sont des perturbateurs endocriniens. Il faut bien comprendre que ces composés-là, ils sont coincés entre les chaînes de notre polymère. Et quand notre objet en plastique il se fragmente, quand il se casse en petits morceaux, eh ben, il libère ces composés-là. Et donc, par exemple, dans certaines rivières, on a démontré que la source principale de phtalates dans les sédiments, c'était la fragmentation de gros morceaux plastiques. Donc, le plastique, certains plastiques en tout cas, vont être toxiques dans l'environnement, pas liés au polymère en lui-même, mais plutôt aux composés qu'il contient. Et donc c'est pour ça qu'on va s'intéresser à ces plastiques-là dans l'environnement. Donc on parle de plastique ou de microplastique. La limite entre les deux, c'est la taille. Dès qu'on va passer la taille de 5 mm, alors le 5 mm, c'est définition historique, mais dès qu'on est plus petit que 5 mm, on va considérer qu'on est dans un microplastique. En 2018, on a une étude de collègues allemands, Bertling et al., qui estime que la quantité de plastique, microplastique émise par un Européen, c'est environ 2 kg par an. D'accord ? Et 2 kg, la majorité, c'est des fragments de pneumatiques, de pneus de voiture. Et effectivement, on change en général de pneus de voiture tous les 60 000 km. En moyenne, c'est tous les 3-4 ans, comme si vous changiez un pneu par an. Quand vous regardez votre pneu entre le début et la fin, il a perdu largement plus d'un kilo. Et donc c'est un kilo de particules plastiques qui se retrouvent dans l'environnement. Donc voilà pour les ordres de grandeur. Maintenant, on va s'intéresser un peu à ce qui se passe dans l'environnement et plus particulièrement à ce qui se passe dans nos montagnes. Donc on est en 2019, on a des collègues toulousains, l'équipe de Allen, qui publient les premiers résultats sur les retombées atmosphériques en milieu montagneux. Donc ils sont dans les Pyrénées, ils viennent mettre des grands collecteurs et ils mesurent les quantités de plastique qui retombent. Et donc vous avez ici la période de l'année et le nombre de particules qui est récupéré. Et vous voyez qu'on a en moyenne environ 300 particules qui se déposent chaque jour dans leur collecteur pour un mètre carré de collecteur. Donc c'est des flux de plastique qui sont assez énormes et qui montrent que même les milieux montagneux qui sont relativement éloignés des sources de la contamination vont recevoir par la voie atmosphérique, par le transport des masses d'air, même ces milieux-là vont recevoir des microparticules de plastique. La même année, on a une étude de Bergman qui travaille, eux, directement sur la neige. Donc ils vont mesurer les concentrations en microplastique dans la neige. Je vous ai fait le découpage ici. Donc là, c'est de la neige arctique, la neige du Svalbard, donc on est au Groenland, et puis la neige des Alpes. Et puis là, vous avez les concentrations en plastique qui sont trouvées dans la neige. Et donc on voit bien que les concentrations, elles sont très variables, mais que dans les Alpes, on a des concentrations qui sont relativement fortes, et en tout cas beaucoup plus fortes que dans le Svalbard et l'Arctique. Donc ces deux publications, si on fait le point, elles nous montrent qu'on a des microplastiques dans les retombées atmosphériques, donc, qui sont apportées par le vent. Par ailleurs, on a vu tout à l'heure, on sait que les masses d'eau océaniques sont contaminées par les apports environnementaux, par les apports continentaux, et par ailleurs, on sait qu'on peut avoir des phénomènes d'accumulation des polluants dans les lacs. Donc ça, c'est nos connaissances de base qui vont nous amener à créer le projet Plastilac. Alors, on sait ça, mais on a quand même des limites. C'est-à-dire que si on travaille dans les lacs de plaine ou les lacs de fond de vallée, on a une grande multiplicité des sources de contamination par les plastiques. Vous pouvez avoir le lessivage des routes, le rejet des eaux usées, vous avez les apports atmosphériques, vous avez les gros déchets plastiques qui sont laissés dans les lacs, qui se fragmentent et qui font des microplastiques. Et donc ces lacs de plaine, de fond de vallée là, ils sont assez difficiles à étudier parce que on a trop de processus qui se mélangent et on a du mal à comprendre le devenir des plastiques. Et donc ça c'est notre limite. Et pour essayer de surmonter ce problème-là, on a mis en place le projet Plastilac qui va aller s'intéresser aux lacs d'altitude. Pourquoi ? Parce que les lacs d'altitude, vous avez deux sources potentielles, les apports atmosphériques et puis les pratiquants de la montagne qui viennent se balader autour du lac. Bon, a priori, les pratiquants de la montagne sont souvent des gens plus respectueux de l'environnement, qui laissent moins de déchets derrière eux, et donc on limite fortement le nombre de sources potentielles de plastique. Donc on a des systèmes qui sont plus simples à étudier et qui vont nous permettre d'avoir une meilleure compréhension des processus. Puis l'autre point qui est intéressant avec les lacs d'altitude, c'est qu'il y en a partout. Et donc on peut aller faire des mesures un peu partout dans les Alpes et essayer de voir si on a des différences spatiales de la contamination. Alors c'est des résultats que je ne vous présenterai pas, et puis je peux vous le dire tout de suite, on n'a pas vraiment de différence entre le nord et le sud des Alpes. Moi, je vais me concentrer sur quelques lacs, parce que je n'ai pas le temps de vous présenter l'ensemble des résultats de l'étude. Je vais vous présenter quelques lacs qui sont des lacs situés dans la réserve de Sixpasi. Donc vous avez Chamonix ici. Et puis nous, on va travailler sur le lac Vert, le lac de Pormenat et le lac d'Anterne. Ces trois lacs qui sont intéressants parce qu'ils présentent un gradient d'exposition aux activités anthropiques, aux activités humaines. Vous voyez que le lac Vert, il est plutôt en fond de vallée, assez proche des activités urbaines, des zones urbaines. Le lac d'Anterne, pour le coup, il est plus haut, il a plus de 2000 mètres d'altitude, et il est beaucoup moins exposé aux activités humaines. Et puis, le lac de Pormenat, il est intermédiaire. Ces trois lacs, ils ont des caractéristiques en termes de taille et de profondeur qui sont assez similaires et du coup, ils vont être comparables. Donc ça, c'est l'étude en 2019. En 2020, on a complété ces trois lacs par un quatrième qui est le lac blanc ici dans les aiguilles rouges, qui est un lac qui, pareil, a à peu près les mêmes caractéristiques, mais qui est encore plus haut en altitude puisque lui, il est à 2350 mètres. Alors en août 2000, on va l'échantillonner en août 2020, et en août 2020, c'est une période qui est assez particulière en termes de fréquentation, puisqu'on a vraiment une vague de fréquentation des massifs de montagne, avec énormément de personnes autour du lac au moment où on va faire les prélèvements. Donc, je vais vous présenter les résultats sur ces quatre lacs, mais d'abord je vais vous montrer comment on fait des mesures de microplastique dans les lacs d'altitude. Alors nos collègues qui bossent dans le milieu marin, c'est facile, ils ont des bateaux, donc ils prennent un filet, ils le mettent à l'arrière du bateau, et puis ils conduisent leur bateau, ils filtrent de l'eau, et puis après ils ramassent tout. Nous on travaille sur des lacs d'altitude, il n'y a pas de bateau, et du coup le bateau il faut l'amener avec nous. Donc on a monté le dispositif que vous voyez en haut à gauche, là, qui s'appelle le Mantamaran, qui est un système avec une structure métallique et puis qui marche sur deux bateaux gonflables, qui est un système qui est démontable et portable à dos d'homme. Donc pour faire une étude, il nous faut 6 personnes, toutes les 6 personnes sont bien chargées, et puis on monte avec notre dispositif, on va se mettre dans le lac, on le monte dans le lac, et puis après on peut naviguer sur le lac, et puis vous voyez, on tire un grand filet comme ça, qui a une taille de 50 micromètres. Donc on est en dessous de ce qui est fait dans le milieu marin. L'idée, c'est de dire, comme on est plus loin des sources, on a peut-être plus de fragmentation et on s'attend à avoir des particules qui sont plus petites. Donc on va descendre encore en taille. Et puis vous voyez, on fait des mesures de vitesse d'écoulement dans le filet, de hauteur d'eau dans le filet, ce qui nous permet de déterminer exactement le volume d'eau qu'on a filtré. Et à la fin, quand on a fini de se promener sur le lac, on vient rincer le filet et on récupère notre échantillon, qu'on appelle une chaussette, qui est ramené au laboratoire. Et ça va nous permettre de quantifier la contamination en plastique dans l'eau du lac. Bon, évidemment, on ne s'arrête pas là. On essaye aussi de déterminer les quantités de plastique qui vont rentrer et sortir du lac. Donc pour les quantités qui rentrent, on va aller se placer dans les tributaires du lac, donc les cours d'eau qui se jettent dans le lac, et on utilise un filet de la même manière. Alors lui, il n'est pas tracté, on le met directement dans le cours d'eau, et puis on ramasse des échantillons. Et puis on va aussi mesurer ce qui retombe avec la voie atmosphérique. Et donc on a ces grands collecteurs qui sont intégralement en inox, là, qui nous permettent de récupérer tout ce qui tombe avec la pluie et la neige. Donc ça, c'est les flux entrants dans notre lac. Et on va aussi travailler sur l'exutoire du lac, avec le ou les émissaires sur lesquels on va venir quantifier les plastiques. Et puis évidemment, on va travailler sur les sédiments, puisque une partie des plastiques qui rentrent dans le lac vont aller se poser au fond du lac. Et donc là, en fonction des lacs, on va soit travailler avec des plongeurs, soit travailler en faisant des prélèvements depuis la surface du lac. Alors quand on est au bord du lac, l'eau elle est bleue, tout ça, on se dit que ça va être facile de mesurer les plastiques, mais en fait, quand on a filtré un grand volume d'eau, les échantillons ils ressemblent à ça. Donc, vous voyez que c'est pas très clair, et là-dedans on va aller chercher des plastiques qui font une taille de 50 micromètres. C'est pas simple. Donc ce qu'on fait, c'est que pour déterminer les concentrations en plastique, on va venir séparer les plastiques de tout le reste. La première étape, ce qu'on va appeler l'attaque oxydante, en fait on va dégrader toute la matière organique, c'est-à-dire tous les débris de végétaux ou d'animaux, les microalgues, etc. Donc toute cette partie-là, en fait on met de l'eau oxygénée dans l'échantillon, la matière se transforme en CO2 et hop, on récupère un mélange qui contient uniquement la fraction minérale, c'est-à-dire les morceaux de cailloux, et puis nos microplastiques. Il se trouve que la fraction minérale, elle est plutôt dense, plutôt lourde, tandis que les plastiques sont plus légers. Et donc, on va faire une séparation par tridensimétrique, c'est-à-dire qu'on va utiliser un liquide spécial qui a une densité juste comprise entre les plastiques et la fraction minérale, ce qui fait que les morceaux de cailloux vont couler, ce que vous voyez au fond, là. Et puis, les plastiques, eux, ils vont avoir tendance à flotter, on les voit pas sur la photo, là, mais et on a quelques plastiques ici. Et tout ça, on vient le déposer sur un tout petit filtre en silicium qui fait 1 cm carré. Donc on a pris l'eau de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de mètres cubes, on l'a filtrée pour récupérer tous les plastiques, et tous ces plastiques qui viennent, tac, sur un petit centimètre carré. Ça vous permet de visualiser un peu la quantité de plastique qu'il y a dans l'eau des lacs, mais a priori c'est pas immense, immense. Ensuite, ça passe au microscope, donc ça c'est le microscope qu'on utilise, qui nous permet d'identifier des particules. Donc vous voyez, ici on a une particule, une autre particule, et puis des fibres là-bas. Seulement, ces particules-là, on est incapable de dire si c'est du plastique ou pas, pour le moment. Donc ça, on le combine avec de l'imagerie infrarouge. Donc on va venir éclairer notre échantillon en infrarouge. C'est l'image que vous avez ici. Et ça, ça va nous permettre d'obtenir des spectres. Donc ça, pour chacune des particules qu'on voit sur notre filtre, on a un spectre comme ça. Ça, on va venir le comparer à une base de données de spectres de matière plastique qu'on a fait au laboratoire. Et on essaye de regarder comment ça marche, comment ça correspond les deux. Et puis vous voyez qu'ici, par exemple, on voit qu'on a bien des pics au même endroit. Ça veut dire que notre plastique ici et la particule qu'on étudie sont composés du même matériau. Et donc comme ça, on est capable de dire si une particule qu'on a dans notre échantillon est vraiment du plastique, et on est capable de dire quel type de plastique c'est. Assez avec le technique, passons au résultat. Alors, premier résultat sur les sédiments. Donc là, on est allé voir ce qu'il y a au fond du lac. Je vous rappelle, le lac Vert, il est proche des activités urbaines. Le lac Nanterne, c'est le plus éloigné. Et le lac de Portmenat, il est intermédiaire. Et donc, vous voyez que lac Nanterne, on a une contamination qui est extrêmement faible, inférieure à 100 particules de plastique par kilogramme de sédiments. Alors que le lac Vert, on monte à quasiment 2300 particules de plastique par kilogramme de sédiments. Le lac de Portmenat, on a quelque chose qui est intermédiaire entre les deux. Donc ce premier résultat, il nous montre que la contamination des sédiments du lac est relativement proportionnelle à l'exposition aux activités urbaines, et plus on a de fréquentation et plus on est proche des villes, et plus on va avoir de la contamination. Ça marche bien, mais ça marche pas toujours. C'est-à-dire que si on rajoute notre quatrième lac, qui est le lac Blanc, lui, bah, il est encore plus en altitude, il va être encore plus loin, et du coup, il devrait être moins contaminé que le lac Nanterne. Et en fait, on s'aperçoit qu'on a une concentration qui est de l'ordre de 700 particules par kilogramme de sédiments, et donc qui est plutôt intermédiaire. Donc, on arrive à enregistrer le signal de la contamination avec les sédiments, et ça, ça reflète plus ou moins l'exposition aux activités anthropiques. En termes d'ordre de grandeur, ces valeurs-là, elles sont relativement faibles comparées à ce qu'on peut trouver par ailleurs. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. Donc ça, c'est les sédiments. On va regarder maintenant dans l'eau des lacs. Donc on a toujours nos trois lacs. Et ici, vous voyez les concentrations en plastique qu'on trouve dans nos trois lacs. Et là, badaboum, ça marche plus du tout. C'est-à-dire que aux incertitudes près, on trouve exactement la même contamination dans les trois lacs. Donc dans le lac qui est proche de la zone urbaine, le lac intermédiaire et le lac qui est éloigné des zones urbaines. Donc notre explication de la contamination juste par l'exposition aux activités anthropiques, dans l'eau, elle fonctionne beaucoup moins bien. Et au-delà de ça, quand en 2020 on va faire le lac Blanc, ici, eh ben on s'aperçoit que c'est un lac qui est encore plus contaminé, en trouvant quasiment 10 fois plus de plastique dans le lac Blanc qu'on avait trouvé par ailleurs. Et donc notre explication de « il suffit de regarder si on est loin ou proche des zones urbaines », ici elle marche plus du tout. Avant d'expliquer pourquoi on a ces différences-là, je voudrais simplement vous montrer ce que ça donne ces concentrations par rapport à ce qui est rapporté dans la littérature. C'est un graphique qui n'est pas simple à lire, il est issu d'une publication qu'on a publiée en 2020, mais vous avez ici, on a pris toutes les données de la littérature, c'est-à-dire de 80 lacs, et on a rapporté les concentrations qui sont mesurées en plastique. Vous voyez que ça varie de un peu en dessous de 1 à plus de 20 000 particules par mètre cube. Les traits ici, ils vous représentent simplement les gammes de taille qui sont étudiées. Alors je vous ai dit qu'avant, on s'intéressait que jusqu'à 300 micromètres, parce qu'on n'avait pas les outils pour aller en dessous. Mais en fonction des études, il y en a qui s'arrêtent à 300 micromètres. Ici, il y en a qui vont descendre à 100, à 50, à 10, puis il y en a qui vont aller en dessous. Bon, bref. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de regarder où ils sont nos lacs. Donc à 2, on est ici, et à 17, on est par ici. Donc vous voyez que même notre lac le plus contaminé, il est dans le quart inférieur de ce qu'on trouve dans la littérature, et nos lacs qui sont peu contaminés ici, ils sont même pas dans les 10% les plus contaminés. Donc premier résultat, c'est que le truc un peu triste, c'est qu'on trouve des microplastiques dans tous les lacs, mais que les taux de contamination dans les lacs d'altitude sont relativement faibles, et elles sont largement parmi les plus faibles de celles qui sont rapportées dans la littérature. Donc les lacs d'altitude y sont relativement préservés. C'est la première bonne nouvelle. Deuxième nouvelle, on va regarder la dynamique de ces plastiques. C'est-à-dire que, je vous rappelle, on a mesuré ce qu'on avait dans le lac. on a mesuré ce qui arrive et ce qui ressort du lac. Et donc on peut comparer tout ça. Ici, c'est le cas du lac Blanc. Je vous présente pas les autres lacs, mais c'est assez similaire. Si on calcule la quantité de plastique qu'on a dans le lac, ici, dans la couche de surface, on est environ à 90 000 particules de plastique dans la surface du lac. Quand on regarde ce qui rentre par le tributaire et ce qui sort par l'émissaire, on est sur des valeurs qui sont relativement similaires, autour de 1200 à 1400 particules par heure. Ça nous permet de calculer ce qu'on appelle un temps de résidence. En fait, on prend la quantité de plastique, puis on la divise par ces flux entrants et sortants. Et le temps de résidence, il est 2 à 3 jours. C'est quoi ces 2 à 3 jours? Ça veut dire que si on pouvait arrêter la contamination du lac, c'est-à-dire arrêter les apports ici, en 2 à 3 jours, notre lac il se décontaminerait. D'accord? Un calcul un peu approximatif, mais l'ordre de grandeur est juste. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que c'est des contaminations qui sont relativement temporaire dans le temps et qu'on pourrait assez facilement s'en débarrasser. Quand même une limite, hein. Si les plastiques qui vont à l'aval, les écosystèmes à l'aval, ils sont toujours contaminés. Bon, bref. Donc, si on fait un point sur cette étude Plastilac, on a trouvé des microplastiques dans l'intégralité des lacs qu'on a étudiés, donc ça, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Cette contamination, elle est principalement liée à un bruit de fond régional, c'est-à-dire aux apports de microplastiques par la voie atmosphérique. On a mis en évidence une grande variabilité de la contamination avec des lacs qui sont autour de 2 particules par mètre cube et puis certains qui sont 7 fois plus contaminés. Et pour l'instant, on a du mal à expliquer cette différence de contamination. Les deux hypothèses qu'on a fait, c'est de dire, le lac Blanc, quand on l'a fait, il y avait énormément de monde autour et donc peut-être que la présence de ces gens autour du lac a généré une surcontamination. Je ne vous parlerai pas de cette hypothèse-là, parce que je n'ai pas le temps. Je vais vous parler d'une autre hypothèse. Il se trouve qu'en 2020, quand on fait l'échantillonnage sur le lac Blanc, l'hiver a été particulièrement neigeux, ce qui fait qu'il y a des grosses quantités de neige dans les bassins versants. Et au moment où on va faire le prélèvement, on a encore toute une partie du bassin versant qui est enneigé et qui fond. Et donc assez facilement, on peut se dire, si pendant l'hiver, on a eu des dépôts de plastique sur ce manteau neigeux, quand il fond, on peut avoir des transferts dans le lac. Et donc là, c'est l'idée qu'on va tester, hein. C'est dans un deuxième projet, donc le projet Climat Blanc, c'est plutôt d'aller travailler sur la fonte de la neige et de vérifier si effectivement la fonte de la neige peut être un vecteur de plastique vers les lacs. Donc, deuxième projet, le projet Climat Blanc. Donc vous avez ici le massif du Mont Blanc. Et puis on est allé faire le tour du massif pour aller prélever des microplastiques dans les torrents qui descendent des glaciers. Donc quand on prend les superficies des bassins versants de ces torrents-là, on a couvert environ 80% du massif du Mont-Blanc et on a fait tous ces prélèvements en 4 jours, enfin en 5 jours, entre le 2 et le 6 juin 2021. Alors pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on est en début de période de fonte et du coup c'est le seul moment où on est sûr que ce qu'ils font et ce qui contribue au torrent, c'est essentiellement de l'eau de fonte de la neige récente. D'accord? Parce que si on avait prélevé plus tard, par exemple en août, vous auriez certains bassins versants où on serait en train de faire fondre la vieille glace du glacier. Et donc on comparerait des choses qui ne sont pas comparables entre de la neige récente et puis de la vieille glace qui est a priori moins contaminée. Donc ça nous impose de faire tous les prélèvements sur une période de temps relativement courte et puis tôt dans l'année. Hop. Donc les résultats de contamination, vous les avez ici. Donc vous avez en bleu, c'est l'étude sur les lacs. En orange, l'étude sur les torrents. Et vous avez ici l'échelle de contamination. Attention, c'est une échelle logarithmique. Donc là, on est à 1, 10 et 100. Donc ça augmente très rapidement. Et ce qu'on voit, c'est que on retrouve encore une fois des microplastiques dans tous les torrents, ce qui montre bien l'omniprésence de cette contamination. On a des microplastiques qui sont majoritairement de petite taille, donc inférieure à 300 micromètres. Donc on a bien fait de réduire la taille de notre filet, sinon on aurait loupé 80% de la contamination. Et on trouve des concentrations, je vous ai mis les valeurs ici, hein, qui varient de 1,2, donc un peu moins que les lacs, à 200 particules par mètre cube, c'est-à-dire 10 fois plus que le lac le plus contaminé. D'accord? Donc ça montre bien que les torrents sont potentiellement une source importante de microplastiques pour les lacs, et que la fonte de la neige en remobilisant les microplastiques qui sont déposés pendant l'hiver pourrait justifier, expliquer cette surcontamination de certains lacs. Bon, après, vous voyez qu'entre 1,2 et 200, quand même une variabilité qui est assez importante. Et donc, cette variabilité, on a essayé de l'expliquer. Donc, pour l'expliquer, on a tracé la cartographie. Donc là, c'est le massif du Mont Blanc. Et on a représenté nos concentrations par des petits ronds violets. Plus le rond est gros, plus la concentration mesurée est forte. On voit au passage que la concentration la plus forte ici, c'est dans la mer de glace. Et donc, vous voyez de manière assez évidente que sur ce graphique-là, on a l'impression que quand on est dans le sud du massif, on est un peu moins contaminé. Et quand on est dans le nord du massif, on est un peu plus contaminé. On pourrait rejeter la faute sur nos amis suisses, mais ça ne serait pas très juste. On a essayé d'expliquer ça autrement, et donc on a essayé de réfléchir à comment on pourrait justifier ça. Alors, encore une fois, la fréquentation, le nord du massif du Mont Blanc, c'est la partie qui est la plus fréquentée, donc la fréquentation pourrait être en partie une explication. L'autre explication, c'est les apports atmosphériques. C'est-à-dire que si on regarde les zones urbaines les plus proches, bah, c'est Chamonix qui est ici, et les vents, ils soufflent avec une origine ouest-sud-ouest, en majorité. Et donc on voit bien que le nord du massif, hein, il est sous le vent par rapport à Chamonix. Donc les apports atmosphériques pourraient être aussi une justification. Et dernière hypothèse, on a fait les échantillonnages sur 5 jours, et en fait sur 5 jours, on avait quand même des différences importantes de météo. Et notamment les derniers jours, les deux derniers jours, il a fait plus beau, plus chaud, et du coup on a eu plus de fonte. Et il se trouve qu'on a fait les échantillonnages dans cet ordre-là, et donc c'est sur les derniers jours où on trouve les concentrations les plus importantes, ce qui pourrait être lié à une augmentation de la période de fonte. On pourra y revenir, j'ai d'autres résultats sur la fonte, hein, d'une autre étude, qui mettent bien en évidence le fait que la fonte de la neige va faire une augmentation importante des concentrations en microplastiques dans les torrents, mais avec des phénomènes qui ne sont pas simples, parce que quand votre neige, elle fond, elle peut effectivement envoyer des microplastiques vers les torrents, mais ces microplastiques ils peuvent être aussi repiégés au sein du manteau neigeux. Et donc on a des phénomènes qui sont assez complexes et pas très simples à comprendre. Alors, dernière partie, je vais vous parler des grands lacs, des lacs périalpins, donc des grands lacs des Alpes, notamment le lac du Bourget et du lac d'Annecy. Donc ça, je vous l'ai dit, hein, c'est les résultats de thèse de Julia Dussaucy qui a soutenu en juillet 2023. Et donc si vous voulez plus de détails sur ces résultats-là, sa thèse, elle est téléchargeable sur Internet. 300 pages de pur bonheur sur les microplastiques. Et Julia, elle a fait dans sa thèse, elle a fait ce que nous, on n'a pas fait dans nos études. Elle a fait un suivi à long terme. Donc pendant 2 ans, elle est allée sur les 3 mêmes lacs faire des échantillonnages réguliers. Donc elle a travaillé sur le lac du Bourget, le lac d'Annecy, et puis un lac d'altitude qui est le lac Merlet supérieur dans la Vanoise. Et donc en faisant son étude là, avec beaucoup beaucoup d'échantillons, elle a montré que le lac Merlet avait une concentration de 11 particules par mètre cube en moyenne sur 2 ans, ce qui est cohérent avec ce que nous on trouve dans les lacs, c'est plutôt dans les gammes hautes, mais c'est cohérent avec notre étude. Et qu'en moyenne, dans les lacs périalpins, on avait une concentration qui était de 30 particules par mètre cube, c'est-à-dire une concentration qui est 3 fois supérieure au lac d'altitude. Il faut savoir que à la fois le lac du Bourget et le lac d'Annecy, c'est des ressources en eau qui sont bien protégées, parce que depuis les années 60, on a des politiques de protection et de gestion des eaux usées qui sont efficaces. Hein. Vous savez que les eaux usées chambériennes, par exemple, elles vont directement dans le Rhône, elles ne passent pas dans le lac du Bourget, ce qui forcément protège ces lacs-là de la contamination. Je pourrais revenir sur ces résultats-là si vous voulez. Julia, elle a aussi fait un bilan de masse, c'est-à-dire qu'elle a calculé sur une année quelles étaient les quantités de microplastiques qui rentrent dans le lac. Et elle estime qu'il y a environ 450 kg de plastique qui rentrent dans le lac du Bourget chaque année. Un chiffre qui me paraît assez énorme, mais je vous laisse vous faire votre propre avis. Sur ces microplastiques, la majorité viennent de ce qu'on va appeler les ruissellements urbains de temps de pluie. Donc c'est quand il pleut beaucoup, comme la nuit dernière par exemple. Vous avez un lessivage de toutes les zones imperméables qui vont aller directement dans la rivière. Et puis vous avez une saturation du réseau d'eau usée qui fait que, pour le coup, bah, la station d'épuration de Chambéry, elle bypasse directement une partie des eaux usées dans la laisse. Et donc vous avez des flux importants à ce moment-là de microplastiques qui vont vers le lac. Et si on regarde le devenir de ces plastiques dans le lac du Bourget, bah, la majorité ne vont pas atteindre le Rhône, ils vont sédimenter avant. Et là, ce qui est intéressant, c'est que quand on travaille à la fois sur des carottes sédimentaires prélevées au fond du lac et puis des mesures de quantité de plastique qui tombe au fond du lac. C'est donc ces deux approches différentes qui quantifient la même chose. Les résultats sont assez cohérents. On a autour de entre 300 et 400 kg de plastique qui sédimentent au fond du lac chaque année. Je m'arrête là, je conclue rapidement. Donc les points un peu importants, hein, c'est la présence de microplastiques qui a été détectée dans absolument l'ensemble de nos échantillons, peu importe que ce soit des lacs ou des torrents d'altitude, ce qui montre que c'est une contamination qui est vraiment omniprésente. On a une contamination qui est relativement limitée pour l'eau, mise à part sur des périodes de temps très très courtes, notamment liées à la fonte. Et par contre, dans les sédiments, on a une accumulation qui est un peu plus importante de particules plastiques. La variabilité spatiale de la contamination, elle est importante et elle va dépendre de plusieurs paramètres. Mais idéalement, il faudrait être capable de mettre en place des suivis à long terme, ce que nous on n'a pas fait, pour déterminer exactement la contribution des différentes sources. Les durées de vie de ces polluants dans l'environnement, c'est relativement faible. Même les lacs qui ont des temps de résidence des eaux qui sont plutôt élevés se débarrassent rapidement des contaminations en microplastiques. La fonte est une source importante de microplastiques pour les lacs d'altitude. C'est plus limité pour les lacs de plaine. On a une contamination qui est encore de l'ordre de 3 fois plus importante pour les lacs périalpins que pour les lacs de plaine, pardon, que pour les lacs d'altitude. Et cette contamination 3 fois plus importante, elle reste faible et elle est liée à la bonne gestion des eaux qu'on a sur les bassins versants. La pluie, alors ça j'en ai pas trop parlé, mais la pluie joue un rôle important dans les quantités de microplastiques qui vont être transférées vers les lacs. Et enfin, quand on a des microplastiques qui rentrent dans le lac, en général ils ne sortent pas du lac, ils restent piégés dans les sédiments. Je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup David Gatteuil. C'est le moment d'échanger, de discuter, de creuser peut-être certains aspects de la conférence. Je ne sais pas si quelqu'un veut démarrer, qui ose poser la première question. Je vous laisse bien. Je donne le micro, comme ça c'est beaucoup plus simple.
Vous parlez des microplastiques. Il y a plus petit encore, les nanoplastiques que vous n'avez pas mesuré apparemment, hein, vous ne travaillez pas.
Non, effectivement, on a travaillé que sur les microplastiques.
Parce que ce sont ces nanoplastiques qui en fait deviennent très dangereux pour l'organisme, tous les organismes, hein, y compris l'homme, parce que ce sont ceux qu'on avale et qui vont se mettre dans les cellules, la circulation et en fait à l'intérieur des cellules même. Vous avez rien de donné là-dessus pour nous illustrer un petit peu ces risques? Alors, c'est quelque chose que vous n'avez pas du tout abordé.
L'analyse des nanoplastiques, elle est extrêmement compliquée parce qu'en fait, vous avez compris, hein, nous pour aller chercher les microplastiques, on va filtrer l'eau. Donc il nous faut des filets qui sont à la bonne taille. Et même en faisant ça, hein, quand vous filtrez à 50 micromètres, vous récupérez toutes les microalgues, vous récupérez tout ça. Si on veut aller aux nanoplastiques et qu'on voulait filtrer, c'est-à-dire qu'on récupérerait absolument tout ce qu'il y a dans l'eau. Donc on serait incapable de faire le tri correctement. Et donc les méthodes pour aller analyser les nanoplastiques, elles sont extrêmement compliquées. C'est ce qu'on appelle de la pyrolyse GCMS. Donc on va venir brûler notre échantillon et on va venir faire de la chromatographie en phase gazeuse couplée à de la spectrométrie de masse pour déterminer ce qui sort de notre échantillon. Et là-dedans, en fonction de ce qui sort après pyrolyse, on essaye de retrouver ce qui pourrait correspondre à des plastiques. Mais en fait, il y a très peu de laboratoires qui arrivent à le faire et de manière correcte. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on est en train de développer les outils pour être capable d'analyser ça. On a du mal à le faire dans des échantillons qui sont contrôlés. Donc avant de le faire dans des échantillons qui sont environnementaux, c'est extrêmement, extrêmement difficile. C'est des sommes qui sont faramineuses. Hein, la machine de base, elle coûte plus de 300 000 euros. C'est des projets à 10 000 euros. Hein. Donc on n'est pas dans les mêmes gammes de prix. Mais par contre, vous avez raison. Hein. C'est plus c'est petit ces particules et plus elles peuvent rentrer dans les organismes puisqu'elles peuvent passer toutes les barrières de protection. Après, l'organisme sait aussi mieux gérer ces petites particules que les grosses. C'est-à-dire que les cellules ont les outils qui vont bien pour pouvoir ressortir ces petites particules. De leur enveloppe, quoi. Donc l'impact des nanoplastiques, en théorie, comme ça passe plus facilement les barrières, il serait plus important. Après, vous avez des études qui montrent que oui et non. Il y en a qui montrent que oui et d'autres qui montrent qu'il n'y a pas d'impact. Donc c'est encore en cours d'investigation. Et oui et non, on ne l'a pas fait.
Je reviens à l'échelle des micros, du coup. Par rapport au micro, vous disiez que finalement, c'était peut-être pas le plastique le plus dangereux, mais c'était plutôt les liants qui étaient autour. Mmh. Est-ce qu'ils sont mesurés dans ces études?
Alors, nous, pour l'instant, on ne l'a pas fait. On a gardé des échantillons, c'est-à-dire notamment dans les sédiments. Là, on a gardé des échantillons de tous les sédiments pour pouvoir les analyser, notamment pour pouvoir analyser les phtalates et pour pouvoir analyser d'autres composés. Donc, on a tous les échantillons qu'il faut pour faire l'étude. Après, la question, c'est une question de financement. Et donc là, je vous en ai parlé un peu au début, hein. On est sur des financements qui sont relativement petits, donc des petites études. Pourquoi ? Parce que c'est des financements privés. Donc grâce aux ONG, on va aller chercher des financements privés. Et en fait, les financeurs privés vont chercher des choses qui parlent aux gens. Et les microplastiques, ça parle bien. Donc ils sont intéressés par les microplastiques, ils vont être moins intéressés par les phtalates ou par les bisphénols, etc. Donc c'est souvent plus dur de faire financer ces études-là. Et puis c'est des analyses qui coûtent très cher. Et donc, en fait, après, c'est une question de financement. Est-ce qu'on trouve le financement pour faire ces analyses-là? Les échantillons, ils sont au laboratoire. Si vous trouvez 150 000 euros, je vous donne tous les résultats d'ici 2 ans.
En attendant une autre question, oui, effectivement, j'ai été surpris de voir que l'apport, finalement, de ces microplastiques qui étaient atmosphériques, la majorité, et finalement... Ils viennent d'où? Enfin, ils sont transportés, mais au départ, comment le vent et Rhodes captent ces microplastiques?
Alors, ça va dépendre. Alors, là, je vous ai parlé des microplastiques de manière générale. En fait, dans les microplastiques, on a 3 grandes familles. On a les vrais microplastiques, qui vont être les fragments des objets en plastique. Okay. On a les fibres synthétiques, qui pour le coup ne sont pas des plastiques dans le sens strict du terme. Mais par contre... tous vos vêtements qui ne sont pas en coton et en lin, dès que vous bougez, avec les frictions, vous créez des petites particules qui ont une taille, en fait, qui font que la moindre turbulence de l'air va permettre de les remobiliser. Et puis, on a les élastomères, notamment les particules de pneus. Hein. Elles, pour le coup, elles sont très denses et du coup, elles vont être beaucoup moins mobilisables. Elles, on va beaucoup moins retrouver dans l'atmosphère. Mais les microplastiques et puis les microfibres synthétiques, c'est simplement l'usage tous les jours de ces composés-là va entraîner la fragmentation et puis la création de ces petites particules. Et comme on est sur des particules qui sont micrométriques, hein, le moindre mouvement des masses d'air peut les remobiliser.
Bonjour. Juste une question, on m'entend ?
Oui.
Quelle eau peut-on boire ?
C'est une très bonne question. L'eau du robinet, c'est la meilleure.
Les eaux en pack, sources minérales.
C'est moins bien, parce qu'à partir du moment où elles ont été stockées dans des bouteilles en plastique, vous savez que par exemple, les distributeurs, les eaux d'Evian, de Contrex, etc., normalement, la règle, c'est que les packs d'eau doivent jamais être exposés au soleil. Si vous êtes passé à côté de grandes surfaces et vous avez regardé les arrière-cours des grandes surfaces, c'est stocké sur des palettes à l'air libre, et en fait, vous êtes dans des contenants en plastique avec du rayonnement UV, ce qui en fait est la pire contrainte. C'est-à-dire que dès que vous avez des UV, dans vos grandes chaînes de polymères, vous venez casser les liaisons et du coup, le matériau perd sa capacité plastique, donc sa capacité à être un peu souple. Et donc après, dès que vous allez avoir du transport, votre transpalette, il arrive, les bouteilles, elles se choquent, ça fragmente et du coup, c'est là-dedans que vous allez retrouver beaucoup de particules plastiques. Dans l'eau du réseau, par exemple, de Chambéry, ça va être pompé au Puy des Îles ou au puits Pasteur, enfin, c'est de l'eau qui est pompée dans les nappes. Tous les sols ont servi de filtre, et donc même si vous avez de la pollution en surface, vous avez relativement peu d'eau, peu de pollution et peu de plastique dans l'eau qui est captée. Et ensuite, c'est tout transporté par des tuyaux. Donc ces tuyaux-là, vous en avez une partie qui est en plastique, notamment tuyaux en PVC. Mais le PVC, c'est extrêmement résistant, et en plus, comme il est enterré, il subit pas les contraintes ni du chaud-froid, ni des UV. Et donc en fait, il ne subit pas les process qui vont avoir tendance à accélérer sa fragmentation. Et donc dans l'eau du robinet, elle est relativement propre. Nous, on a travaillé à Chambéry, on est dans les mêmes ordres de grandeur que les lacs d'altitude. Là, on est de l'ordre de la particule par mètre cube. Donc avant d'ingérer des quantités de plastique importantes, c'est-à-dire que vous buvez 2 litres d'eau par jour, C'est-à-dire que vous avez une chance sur 500 d'avoir une particule plastique dans l'eau que vous buvez tous les jours. Une particule. Donc l'eau du robinet, elle est bonne.
Donc il y a une inégalité sur le territoire entre les gens des montagnes, nous, et les gens qui habitent au bord de la mer en termes de consommation de ces plastiques à travers l'eau.
Oui, même pour nous, hein, la question de l'évolution de la ressource en eau, elle est importante. On ne va pas pouvoir puiser des millions de mètres cubes dans les nappes souterraines de Chambéry. Et donc, par exemple, à Aix, on commence à travailler dans le lac, à puiser dans le lac et à potabiliser de l'eau du lac. Je ne suis pas sûr que les plastiques soient une vraie problématique dans ce cas-là, mais si vous prenez l'eau du lac, vous partez avec une eau qui est déjà plus contaminée que l'eau souterraine. Et donc, forcément, en fonction de comment est produite votre eau potable, vous aurez soit plus de chances d'avoir une eau qui est un peu contaminée, soit vous aurez l'obligation de mettre en place des processus de potabilisation qui sont un peu plus poussés, un peu plus développés. Mais ça, c'est, et puis, enfin, on le sait, hein, le changement climatique, il va amener des changements de régime hydrologique dans les rivières, dans les montagnes. On va avoir probablement des débits beaucoup plus bas en été, parce qu'on aura beaucoup moins de neige dans les montagnes, en tout cas la neige partira plus vite. Ce qui va entraîner forcément des impacts sur les nappes. Hein. Il y aura moins d'eau dans les nappes, et donc de plus en plus, on va être amené à aller taper dans les lacs, etc., dans les réserves de surface aussi, pour aller faire de l'eau potable. Et donc ça, à long terme, ça va avoir effectivement un impact.
La pollution sera dans le temps toujours à la hausse, ou ça peut descendre à un moment donné, ou c'est tout le temps en augmentation, la pollution?
Alors, sur la pollution, quand il y a une prise de conscience publique, en fait, c'est le meilleur vecteur pour réduire une pollution. C'est-à-dire que quand la population, de manière générale, s'empare d'une problématique sur la pollution, souvent les politiques publiques suivent et du coup, on a des réductions de pollution. Hein, l'exemple du lac du Bourget, il est évident. Vous regardez les photos du lac du Bourget dans les années 70, l'eau, elle est verte parce qu'il y avait énormément d'apports de phosphate. Maintenant, vous avez une eau qui est limpide, qui est propre, parce qu'on a mis en place des mesures pour réguler la pollution. Donc, de manière générale, hein, quand vous avez une prise de conscience, vous avez les politiques publiques qui vont bien, et du coup, vous avez une réduction de la contamination. Okay ? Après, tant que cette régulation n'a pas été mise en place, par exemple sur les plastiques, pour l'instant, elle est encore relativement limitée, vous avez plutôt des chances d'être sur des phénomènes d'augmentation de la contamination. Là, la production actuelle de plastique, c'est 400 millions de tonnes par an à l'échelle du monde. On estime qu'elle sera à 1 milliard de tonnes en 2050. Donc là, dans les 30 prochaines années, 25 prochaines années, on va plus que doubler la production de plastique. Donc a priori, on va plus que doubler la contamination aussi, à moins qu'on optimise de manière hyper efficace la récupération et le recyclage des plastiques.
Il me semble que j'ai presque entendu la réponse dans la question que je voulais vous poser, mais qui est un petit peu dans la continuité et un peu complémentaire. Quel est l'impact de ces études sur à la fois l'opinion publique et les régulations par les pouvoirs publics de la gestion, de la consommation des plastiques? Mais voilà, vu les chiffres, je pense que je vous laisse répondre.
Alors, ça dépend lesquels. Là, on est quand même sur une étude qui montre que les milieux de montagne sont relativement préservés. Donc là, l'impact sur la législation, elle va être limitée, puisqu'on voit qu'il n'y a que très peu de particules dans ces cas-là. Moi, je participe à d'autres études sur des milieux qui sont beaucoup plus contaminés. On a travaillé sur le Rhône, par exemple. Sur le Rhône, en période de crue, on peut atteindre 8000 particules par mètre cube. On était à 2 dans les lacs, donc fois 4000, ça peut avoir un peu plus d'importance. J'ai aussi participé à des études sur l'impact des géotextiles. Les géotextiles, vous savez, c'est grands tissus plastiques qui sont utilisés dans plein de choses. Tu vois, si vous avez pratiqué un peu du vélo le long de la Lesse actuellement, ils sont en train de refaire la digue et ils mettent des films plastiques partout. Hein. Donc ces géotextiles, ils sont énormément utilisés dans le bâtiment, dans les travaux publics, etc. Et il n'y a aucune étude sur leur impact qui a été menée. Nous, on en a fait une en collaboration avec Tignes, où on a montré où ils s'en servent sur le glacier. On a montré que ces bâches-là, elles relarguent des plastiques. On a quantifié cette production de plastique. Et ces données-là, elles ont été prises en compte par le ministère pour travailler sur des projets de régulation des usages des géotextiles. Donc il y a une partie des travaux qui vont servir à faire de la régulation. mais c'est pas cela.
Et est-ce que la vulgarisation peut avoir un impact sur le grand public qui dans dans le choix, dans ses choix de matériaux, en tout cas dans ses usages des plastiques?
Je sais pas. c'est une excellente question. Je pense qu'effectivement, je voulais dire, la prise de conscience par la population de son impact, c'est le meilleur vecteur pour créer de la régulation, parce que. Mais est-ce qu'on change le monde 20 personnes à la fois? Je ne suis pas sûr. Est-ce que vous qui êtes ici, vous n'êtes pas déjà conscient de votre impact sur l'environnement et vous ne faites pas déjà attention? Est-ce que ma conférence, elle va changer quelque chose? Je ne suis pas sûr. C'est-à-dire que les gens qui sont les plus sensibles à la vulgarisation ne sont pas ceux qui ont le plus besoin d'être informés. Donc c'est la limitation de...
Merci pour ces informations. Et alors, ce qui m'intéresse, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que dès que j'ai su que je venais aujourd'hui, j'ai ressorti un vieil article sur les bactéries bouffeuses de plastique. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tous ces plastiques qui ne vont pas diminuer, manifestement? Est-ce qu'il y a un moyen de les réguler eux aussi? Où est-ce qu'il va falloir faire avec?
Alors, les plastiques sont déjà... C'est difficile de vous répondre et de répondre de manière globale pour l'ensemble des plastiques. Je vous ai présenté au début là, les différents polymères qui existent. Si vous prenez... On parle des bactéries mangeuses de plastique. En fait, souvent, elles mangent un plastique. Elles mangent le polyéthylène parce que l'éthylène, la brique de base, l'éthylène... C'est une molécule qu'on trouve naturellement dans l'environnement, c'est une hormone végétale. Donc dans tous les animaux, vous en avez, dans tous les animaux, tous les végétaux, vous en avez. Et donc, en fait, des bactéries qui sont capables de dégrader ce composé-là, il y en a plein. Et donc, forcément, le polyéthylène, qui est juste un réplica de cette molécule-là, bah, il est dégradable. On le voit assez facilement dans nos études. Souvent, on trouve peu de polyéthylène. Pourquoi ? Parce qu'il est dégradé. Alors qu'il y en a d'autres qui ne sont pas du tout dégradés. Donc c'est difficile de vous répondre pour l'ensemble des plastiques. Il y en a qui seront dégradés assez rapidement et il y en a qui le seront beaucoup moins. On parlait du PVC ou du polystyrène. C'est des composés qui, dans leur brique de base, contiennent des cycles aromatiques. Là. Et ces cycles aromatiques, c'est toujours quelque chose qui est un peu dur à les dégrader pour les bactéries. Et du coup, c'est des plastiques qu'on trouvera longtemps. Alors normalement, là j'avais qu'une demi-heure, je ne vous ai pas fait mon speech sur le plastique à usage unique. Mais normalement, j'ai un petit slide qui résume la consommation de plastique. En 2018 en Europe, on a produit 50 millions de tonnes de plastique. Sur ces 50 millions de tonnes de plastique, il y en a 30 qui ont été collectées dans les poubelles. Donc, c'est-à-dire que 60% du plastique qui a été utilisé en Europe a été jeté immédiatement après. Le problème, c'est le plastique à usage unique. C'est pas les autres plastiques. Moi, je suis pas du tout là pour faire un discours anti-plastique. Enfin, votre chaise que vous utilisez pendant 10 ans, en fait, le plastique, il est rentabilisé. Si votre voiture, vous remplaciez toutes les parts qui sont en plastique par du matériau métallique, elle pèserait 5 fois plus lourd et elle consommerait 10 fois plus de carburant, donc ça serait pas mieux. Donc, quand vous allez à l'hôpital, vous êtes content d'avoir des trucs en plastique qui sont neufs et qui n'ont pas servi à 50 personnes avant vous. Et ça, c'est possible grâce au plastique. D'accord ? Donc, je suis pas du tout contre le plastique. Après, dans notre usage de tous les jours, est-ce que le Tupperware il doit être en plastique ou est-ce qu'on peut l'utiliser en verre? Le verre sera sans doute plus résistant, il va durer plus longtemps, il passe aussi très bien au micro-ondes, etc. Bon, ça coûte un peu plus cher à l'achat. Mais voilà, on a souvent des alternatives possibles pour certains matériaux. Ah oui, si vous parlez de gros objets en plastique, hein, il y en a une partie. Ah non, les micros, c'est compliqué. En fait, une fois qu'ils sont dans l'environnement, comment on va les récupérer? C'est-à-dire que nous, on a, dans nos études, je sais pas, on a étudié 15 lacs, à chaque fois on a filtré 200 mètres cubes, donc on a purifié, entre guillemets, 3000 mètres cubes d'eau. Mais on voit bien que ce serait pas des méthodes viables, on pouvait pas filtrer l'eau de tous les lacs, etc. Donc une fois que c'est dans l'environnement, c'est dans l'environnement. Ça finira par être dégradé, à plus ou moins long terme. Pour certains composés de très long terme, ça finira par être dégradé, mais on peut pas aller les chercher. Il y a des méthodes qui sont testées sur des phénomènes de bullage. On vient dans les rivières et on injecte de l'air par en dessous pour faire monter des bulles d'air pour essayer de récupérer, faire flotter les plastiques et les récupérer. C'est assez peu efficace. Donc en fait, le plastique, pour le récupérer, tant qu'il est un peu sous une grosse taille, en fait, dès qu'il va se fragmenter, on n'arrivera plus à le récupérer.
Nous arrivons au terme de la rencontre. Je ne sais pas s'il y a une dernière question dans l'Assemblée. S'il n'y en a pas, David, je vous laisse le mot de la fin, le message avec lequel on va repartir.
Le message avec lequel on va repartir, je ne sais pas. Je pense que le message important, c'est de se dire que ces polluants-là, on n'arrivera pas à les ressortir de l'environnement. Et donc, la meilleure chose à faire, c'est de pas en mettre. Sans doute des choses que vous avez déjà conscience, mais continuer à en parler autour de vous, en fait, et à sensibiliser les gens qui sont autour de vous, ce sera le meilleur moyen de prévenir de futures pollutions. Et merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui.
Merci beaucoup, David Gatoy. Je montre. Si la thématique des plastiques vous intéresse, celle de l'océan et de toutes les sciences, donc c'est la fête de la science depuis cette semaine. Et ce soir, il y a un café-débat. Je te laisse juste un tout petit mot.
À la MJC, donc sur le partage de l'eau, si ça vous intéresse. Donc c'est à 20h jusqu'à 22h30 avec 6 intervenants qui seront là pour parler justement avec des regards différents.
Voilà, et durant le village des sciences, il y aura alors pas de conférence cette année puisqu'on n'a pas trop de place, mais par contre des stands. Et pour les plus jeunes, donc si vous avez des enfants ou des petits-enfants, il y aura un atelier qui est écrit par la fondation Tara Océan sur les plastiques et les microplastiques. Donc voilà, on est encore dans la thématique. Et n'hésitez pas à prendre le programme entre midi et sciences de la saison. Encore merci et puis à très bientôt. Au revoir. Merci.